Radio Barque, la troisième partie de notre 15e de la saison avec Michel Py, que nous avons déjà entendu d'ailleurs s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Alors vous êtes, on va commencer par là peut-être si vous le voulez bien, Michel Py, vous êtes maire de Leucate. On a évoqué plusieurs fois ce micro et dans cette émission Radio Barque la fameuse fusion de la compétence tourisme sur le Grand Narbonne avec l'ensemble de l'agglomération qui est réuni sous l'égide d'un office du tourisme et avec quand même des exceptions qui subsistent, à savoir Gruissant, Narbonne et Leucate dont vous êtes le maire. Là encore, rien d'illégal, les lois le permettent, mais ça pose un certain nombre de questions de fonctionnement au quidam moyen qui ne comprend pas trop pourquoi c'est l'agglo, pourquoi c'est pas l'agglo. Alors, est-ce que vous pouvez donner votre point de vue là-dessus ?
Il y a des problèmes à la fois, on va dire, techniques et des problèmes plus économiques. Nous nous trouvons malheureusement dans une région qui n'est pas identifiée en tant que telle comme destination touristique. Le littoral narbonnais n'est pas porté par un nom de destination touristique. Personne ne dit, par exemple, je vais en vacances dans l'Aude, ou on n'est pas identifié comme tel. Ce qui est identifié comme destination touristique, ce sont les villes aujourd'hui. Je vais en vacances à Leucate, je vais en vacances à Gruissant, je vais en vacances à Narbonne. Donc il est quelque part logique, naturel et économiquement, ça se comprend, que tant qu'on n'aura pas réussi à créer cette destination que moi j'appelle de mes voeux, hein, littoral côte audoise, les destinations propres qui existent sur notre littoral continuent à assurer leur propre promotion. Bon, je prône le schéma espagnol depuis longtemps, hein, qui a su créer ces destinations-là il y a déjà de multiples années, Costa Brava, Costa Dorada, Costa Blanca, et ainsi on peut ensuite faire la promotion et se regrouper donc à l'échelle de tout le territoire, mais il faut ce préalable-là, il faut cet engagement. Après, il y a des considérations un peu plus techniques. Il faut savoir que pour conserver le classement dont nous disposons, nous, en tant que station classée, il nous faut un office de tourisme de catégorie 1. Tout ça est effectivement technique. Leucate est catégorie 1, Gruissant est catégorie 1, Narbonne est catégorie 1, mais les pics de Narbonne n'est pas catégorie 1. Et donc, nous aurions retiré le classement de station classée.
Vous auriez dégradé, en quelque sorte.
Qui apporte par ailleurs d'autres avantages à ces stations. Bon, tout ça, effectivement, peut se régler, mais ne peut pas se régler en 6 mois et nécessite à la fois une préparation administrative assez longue et en même temps une approche du développement économique et touristique sur le secteur aussi qui doit être approfondie. Moi, j'y suis prêt, voilà, mais les choses ne peuvent pas se faire avec seulement un coup de baguette magique.
Oui, donc ça ne vous gênerait pas à terme que le 4 rejoigne cet office communautaire véritablement. Vous êtes, Monsieur Codorniou disait un peu la même chose à ce micro la semaine dernière, à savoir avec le temps, au bout d'un certain temps, on peut envisager que...
Il faut faire de la Côte d'Oise une destination touristique à part entière, et à ce moment-là...
Un produit touristique homogène, en fait.
Et à ce moment-là, plus rien ne s'opposera, effectivement, à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul office du tourisme qui travaille à la promotion, à l'organisation de l'offre sur ce territoire et à son développement.
Oui, Michel.
Jean-Claude, moi je ne partage pas là, mais mes auditeurs l'ont entendu quand j'ai chroniqué ce sujet. Je ne partage pas tout à fait cette analyse-là. Et on est dans un pays, en fait, où le provisoire est éternel. D'une certaine manière. C'est-à-dire que, bon, quand on crée des situations comme ça intermédiaires, eh bien, elles n'évoluent pas et chacun reste effectivement fixé sur ses prérogatives, sur ses pouvoirs, sur son espace de pouvoir. Et on aurait très bien pu faire les deux, d'ailleurs. On aurait très bien pu, en même temps, gérer la compétence totale au niveau de la loi et, en même temps, préserver l'autonomie des stations dans la communication institutionnelle. Donc, je ne vois pas très bien la meilleure des preuves que tout cela revienne et le résultat de situations politiques un peu vite improvisées, à savoir que cette possibilité qui a été offerte aux aux stations classées de conserver la compétence, eh bien, elle résulte d'une loi qui a été votée quelques jours avant la fin de l'année, alors par une loi dite Montagne, présidée par M. Baillet, pour des considérations qui, là du coup, en fait, loi Montagne et M. Baillet étaient essentiellement d'ordre politique.
Oui, mais pour la bonne et simple raison que la loi NOTRe sur ses aspects touristiques, et peut-être on parlera tout à l'heure des ports, a été bâclée, pas préparée, pas anticipée, et on est dans un flou généralisé avec cette loi NOTRe sur le transfert de ces compétences-là, voilà, où rien n'est dit explicitement, rien n'est écrit, et les préfets sont les premiers désemparés face à l'application de cette loi.
Donc ça va trop vite, ça va trop vite, et ça apporte plus de désordre que de remise en place des choses.
Ça a été impréparé, mais rendez-vous compte que sur les ports, quand même, il devait y avoir un conseiller désœuvré dans le ministère de Bailey avant Noël, je ne sais pas. On a reçu une lettre le 28 décembre pour nous demander le transfert du port au 1er janvier.
Oui, c'est ahurissant.
Alors que la loi NOTRe a été étudiée sur toutes les coutures par tout un tas de cabinets, notamment à Narbonne, c'est KPMG qui a travaillé, c'est quand même un cabinet sérieux. Et qu'aucun de ces cabinets, aucun des avocats qui s'étaient penchés précédemment sur la loi NOTRe n'avait conclu au transfert des ports de plaisance à l'agglomération. Il a fallu cette circulaire Bailey là, entre Noël et le jour de l'an, nous disant que le port devait être transféré au 1er janvier pour que il y ait cette agitation. Enfin, tout cela.
C'est... Oui, précision est bonne.
Oui, sur le sujet dont il parle, donc qui ont un petit peu le sujet aussi. Bon, quelquefois avec les élus, on n'est pas tout à fait en phase. Le transfert de compétences au titre de la compétence économique, et non pas touristique, des zones portuaires, y compris donc les ports de plaisance, elles datent de bien avant la fin de l'année. Je connais des sites, qui ont déjà préparé, qui ont commencé à préparer leur transfert portuaire, y compris de plaisance, depuis le mois de juin.
Là-dessus, nous sommes d'accord. La loi NOTRe parle de zones économiques portuaires transférées. C'est la seule chose qu'elle dit. Donc là-dessus, on est d'accord pour transférer les zones économiques portuaires. Encore faut-il qu'on s'entende sur ce qu'est une zone économique portuaire. Il y a ce conseiller, cette circulaire Bailey, dit que la zone économique portuaire entraîne le transfert de tout le port. C'est ce point-là que l'on contexte, pas le transfert de la zone économique portuaire. Et je ferai remarquer que dans les PO, effectivement, par exemple, il y a une interprétation des services de l'État qui disent effectivement on ne transfère que la zone d'activité portuaire. Dans le Gard, le préfet a conclu à ce que rien du tout ne soit transféré, à ce que le port et la zone d'activité restent dans la commune. Et puis nous, on nous dit ici, il faut tout transférer. Tout ça est un joyeux bordel qui mérite vraiment une clarification des plus urgentes par le législateur. Sinon, malheureusement, que va-t-il se passer? Mais il faudra attendre une jurisprudence et pendant tout ce temps, on va naviguer dans une période d'incertitude.
Ça sera le flou et la polémique, forcément, est sujet
à polémique. Alors le comptable public, il ne fera plus les salaires des salariés des les ports.
Là, ça fera bouger les choses, probablement, peut-être un peu plus. Alors, Michel Py, ça n'est un secret pour personne. Depuis pas mal de temps, vous êtes en campagne.
C'est le premier, d'ailleurs. C'est le premier qui s'est déclaré, en fait.
C'est parfaitement clair. Vous avez longuement, d'ailleurs, participé à l'organisation des primaires de la droite et du centre sur ce département.
Qui ont été un succès, cher Jean-Claude.
À la fois sur le nombre et sur le comportement.
De ce à quoi on vient d'assister pour le Parti socialiste. Je rappellerai quand même que, y compris dans ce département de l'Aude, ce qui est à noter, nous avons rassemblé pour l'organisation de cette primaire plus d'électeurs, 3000 de plus au premier tour, que le Parti socialiste. Voilà, nous en sommes l'exact inverse. Cette primaire du Parti socialiste a été une primaire caractérisée par une participation faible, des chiffres truqués, un résultat sans clarté, un éclatement probablement à venir du Parti socialiste. Enfin, tout l'exact contraire de ce qu'a été la primaire de la droite et du centre dans ce département et d'ailleurs aussi en France.
Oui, ben un constat qui n'est pas sans vous réjouir, Monsieur Michel Py.
Bon, je ne...
En tant que candidat
Je ne ni le déplore ni ne m'en réjouis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la droite et le centre ont à proposer pour les Narbonnais. Et en même temps, l'équilibre des forces politiques qui font vivre la démocratie dans ce pays est aussi quand même important.
Alors, à propos justement de soutien, il y a eu un épisode que Michel Py, évidemment, a déjà évoqué.
Michel Santo, pas Michel Py.
Pardon. que cette confusion entre les Michel que j'ai sous les yeux l'un et l'autre, que Michel Santo a déjà évoqué et sur lequel il est revenu, alors là, avec délectation, je le souligne, c'est le fameux tango Fabre-Mouly. C'est-à-dire, bon, c'est une formule ironique qui signifie que Monsieur Didier Mouly, le maire de cette ville, Narbonne, a tout d'un coup déclaré qu'il soutiendra la candidature de Madame Fabre. Ce qui, évidemment, a pour le moins surpris beaucoup de gens. Comment, vous qui êtes sur le terrain et impliqué au premier chef, avez-vous pris cette nouvelle ? À la rigolade ou au sérieux ?
Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Vous avez utilisé l'expression de Chirac.
Formule. Vous savez que j'ai beaucoup d'amitié pour le président Chirac, qui avait des traits d'humour souvent comme ça, et oui, qui sont très, très rigolos. Il en disait une autre, d'ailleurs, à propos des sondages, qui me plaît beaucoup, parce que un peu aussi s'appliquer à beaucoup d'événements de la vie. Voilà, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Vous voyez, donc, c'est une source d'inspiration constante, Jacques Chirac, pour moi. Et dans cette affaire, ça m'en touche une, ça fait rebouger l'autre. Voilà, ça résume parfaitement bien le fond de ma pensée. C'est pour moi un non-événement qui n'aura pas d'impact sur cette élection législative.
Et donc, vous l'avez pris de cette façon-là. Madame Fabre, alors je refais une petite parenthèse que j'avais déjà faite à ce sujet. Madame Fabre, j'aimerais qu'elle soit à ce même micro pour s'expliquer. On lui poserait les mêmes questions. Je l'ai invitée il y a un certain nombre de semaines. À ce jour, je n'ai pas eu de réponse. Donc, il soit clair que ce n'est pas un refus de ma part de l'inviter, bien au contraire, et que si elle répond positivement dans les semaines qui viennent, bien entendu, elle viendra ici même s'en expliquer. Alors elle semble, je dis bien semble, avoir pris ce soutien relativement au sérieux.
Et effectivement, c'est ce qu'on a lu dans la presse. Bon, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur cet épisode qui pour moi, n'en est finalement pas un.
Mais c'est-à-dire, vous voulez dire que ça ne pèsera pas du tout dans les urnes, selon vous ?
Je ne crois pas. Et encore une fois, je crois que ça créera même plus de problèmes en interne chez les uns et chez les autres. J'ai eu des réactions à la fois aussi étonnées...
De militants socialistes, peut-être.
De militants socialistes comme de militants Nouveau-Narbonne. Donc, voilà, je crois que ça créera plus de problèmes en interne chez les uns et chez les autres que ça ne m'imposera à moi dans le cadre de cette campagne pour les élections législatives.
Je crois quand même que ça, c'est un signe hein, quand même de faiblesse politique, hein, que pour l'un et pour l'autre. Hein, que Didier Mouly fêtait Marine Farm face à un tango pareil, exprime à l'évidence le fait que leur propre situation politique hein, est fragile et qu'ils cherchent à compenser par des alliances contre une nature. Comme le faisait remarquer Michel Pim, où je peux témoigner des réactions de gauche et de droite particulièrement négatives dans cette affaire, qui risque effectivement de se retourner comme un boomerang dans leur figure politique.
Alors revenons donc sur des choses beaucoup plus solides dans votre campagne. Sur quoi basez-vous cette campagne qui sera quand même, ce sera la troisième ou la quatrième, je crois, campagne.
Ce sera la quatrième fois que je me présente effectivement à l'élection législative sur cette circonscription. Voilà, sur la
Alors, quels éléments nouveaux percevez-vous ?
Quels éléments nouveaux ? Je perçois plusieurs. Après avoir bien connu, pour y vivre, et à la fois aussi bien étudié ce qui aujourd'hui pénalise finalement le développement et l'avenir de cette circonscription, j'en suis venu... À l'idée finalement qu'il fallait la sortir du mépris profond dans lequel elle est plongée depuis Paris. Un certain nombre de dossiers attestent de cela. La ligne LGV par exemple, on est inscrit au schéma des lignes à grande vitesse depuis 91 je crois. Tous les tronçons ont ouvert autour de nous les uns après les autres. Le seul chaînon manquant entre Madrid et Bruxelles, c'est précisément le département de l'Aude. Je ne peux pas me l'expliquer autrement que par un mépris qui vient de loin. Hein, un mépris qui vient de loin, depuis Paris, envers cette partie-là du territoire de la France. le pont de Carcassonne, peut-être on en reparlera, qui se trouve d'ailleurs bien, bien à Narbonne, est aussi, je crois, l'illustration de ce mépris. Aujourd'hui, on voudrait nous faire passer la gestion politique de cette fermeture comme le symbole d'un brillant succès ou d'une brillante réussite. Il faut vraiment être coupé des réalités ou nous prendre pour des perdreaux de l'année pour penser qu'on va pouvoir avaler pareil couleuvre. Le pont est fermé depuis 3 ans. Ce n'est pas un succès, c'est un fiasco. Ce n'est pas le pont d'Arcole, c'est Waterloo. Combien de temps perdu, d'énergie perdue dans nos voitures, dans nos bouchons, dans les artères? Combien de temps et d'énergie ont perdu les commerçants? 3 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour construire le viaduc de Millau. Donc moi, j'appelle tout le monde à la réflexion là-dessus. Quand Élie Olin est venu dans le département de l'Aude suite aux graves inondations qui ont frappé le département, il a fallu 6 mois pour débloquer les crédits. Mmh. Tout le monde l'a dit. Et Michel Moynier, et le maire de Cuxac, et le maire de Coursan.
Et le dossier a suivi son cours.
Et le dossier a suivi son cours. Donc ce qui est important, c'est qu'il y ait une volonté politique, et c'est qu'il y ait des relais puissants à Paris qui sachent se faire entendre et écouter. Et moi, je veux sortir la Narbonnaise du mépris dans lequel elle est plongée, de l'absence de relais dont elle souffre à Paris, pour enfin faire avancer les dossiers qui sont essentiels à son développement et à son avenir. Et j'axerai ma campagne là-dessus, sans me préoccuper d'ailleurs de ce que font les uns ou les autres. Ça ne m'intéresse pas. Madame Femme, j'en ai parlé, je n'en parlerai plus. Et puis Monsieur Scoumoun, je lui laisserai le soin de parler lui-même de lui, ça suffira aussi.
Mais alors, comment pouvez-vous penser influer sur l'esprit parisien de certains technocrates, ce que vous déplorez, et c'est vrai, ce que vous dites à propos de la ligne TGV, je crois me souvenir qu'elle avait été classée priorité européenne à un sommet européen de Corfou dans les années 90.
Oui, c'est ça. Elle a été inscrite au schéma des lignes à grande vitesse prioritaire.
Ça dire, il y a 20 ans.
91, je crois. Ouais.
Donc, bon, et on en attend toujours le début du commencement. Donc,
mais ça, au-delà du département de l'Aude, ce qu'il faut dire, c'est que cette région, Languedoc-Roussillon, mais aussi un petit peu Midi-Pyrénées, a souffert depuis tout ce temps, hein, d'absence de représentants ou de membres dans les gouvernements qui se sont succédés.
Mais c'est une question d'absence ou de comportement? Mais
si on n'est pas représenté dans un gouvernement, c'est déjà qu'on manque aussi de considération et de reconnaissance. Aujourd'hui, le train LGV va arriver à Bordeaux, alors que la ligne a démarré bien plus tard que la nôtre. Parce qu'il y a eu des élus sur ce trajet-là.
Qui ont fait pression et qui ont
voilà,
su maintenir.
Voilà, quels que soient les gouvernements. C'est ce qui a manqué à cette région et c'est ce qu'il faut changer si on veut enfin être traité d'égal à égal avec les autres régions de ce pays.
Voilà, ben écoutez, c'est là-dessus. Alors, c'est là-dessus qu'on va conclure. Hein. Peut-être une remarque, Michel ?
Non, je me souviens de l'époque où Jacques Blanc était le président du conseil régional. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les premières études
ont commencé. Et c'était sous Jacques Blanc qu'il y avait eu ce sommet de Corfou.
Exactement.
Et Jacques Blanc était revenu en proclamant au Wayfor, et on le comprend, qu'il avait obtenu le classement en priorité européenne de ce tronçon méditerranéen.
Ça remonte aux années 86.
Oui, Jacques Blanc avait une audience nationale dans les gouvernements. Il a été ministre, il a occupé des fonctions très importantes à différents niveaux, au niveau européen. Et donc il avait cette capacité à faire avancer les dossiers que malheureusement dans cette région, on n'a plus depuis que lui-même est sorti de la vie politique locale.
Eh bien, merci Michel Pise. Je crois comprendre que c'est sur cette piste-là, notamment, que vous allez travailler tout au long de votre campagne. Et au-delà.
Et je ferais remarquer que Nelly Olin, elle n'est pas venue toute seule dans le département de l'Aude. J'étais pas parlementaire qu'elle est venue et qu'elle a pu débloquer ses dossiers. Même sans en rester la fonction, j'ai déjà contribué à faire avancer un certain nombre de choses sur ce territoire. Et c'est dans cette ligne-là que je poursuivrai si le 11 juin prochain, les Narbonnaises et les Narbonnais me font confiance pour que vibre à nouveau la Narbonnaise d'abord et la France toujours.
Merci Michel Py. Le prochain Radio Barque verra l'invitation d'un couple cette fois-ci, Laurence Fraisse et Bertrand Bail.
Ce sera une autre musique là du coup.
de l'orchestre qui représenteront respectivement l'orchestre d'harmonie de Narbonne. Nous parlerons d'ailleurs de musique et nous fêterons le 20e anniversaire de cette institution.
Musique et harmonie à Narbonne, c'est pas beau ça.
Merci et à la semaine prochaine.
Merci, merci à vous.
Thank you.